Eh bien, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir tous. Qui veut améliorer son étude de la Bible? Laissez-moi voir combien de mains ne se sont pas levées. Bien. Qui veut extraire davantage de la parole de Dieu lorsqu'il étudie? Bien. Eh bien, si vous voulez améliorer considérablement votre étude de la Bible, ce message est pour vous. Si vous voulez savoir comment mieux appliquer les principes pieux, et les appliquer dans votre vie, ce message est pour vous. Si vous voulez ouvrir votre Bible et aller plus loin que les plus grands théologiens du monde, ce message est pour vous. Si vous voulez activer le Saint-Esprit et avoir une plus grande compréhension des Écritures, ce message est pour vous. Et le meilleur de tout, c'est qu'il est vraiment facile. Ce n'est pas difficile du tout, si vous suivez les étapes que je vais vous donner dans ce message. Et pour une raison quelconque, j'ai l'impression d'être dans un publi-reportage. Si vous commandez maintenant, vous pouvez. À la fin d'une carrière de 40 ans, mon père, il a travaillé pour le gouvernement fédéral, le gouvernement des États-Unis. Il a travaillé avec l'Agence américaine de l'immigration et des douanes. Et vous pouvez imaginer que nous avons eu des conversations assez intéressantes au fil des ans, surtout quand on regarde la crise de l'immigration et tout ce qui se passe avec cela. Mais voici sa description de poste, son titre était « Management and Program Analyst ». Il était donc analyste de gestion et de programme pour l'Agence des États-Unis pour l'immigration et les douanes. Sa description de poste. En tant qu'analyste de gestion et de programme, vous agirez à titre d'analyste et de conseiller auprès de la direction en ce qui concerne l'efficacité des programmes et des opérations, et, ou la productivité et l'efficacité de la composante organisationnelle qui vous est assignée. En utilisant vos connaissances. Il poursuit. En utilisant votre connaissance des politiques du programme, des méthodes d'analyse et d'évaluation, acquises par l'expérience dans le poste, vous fournirez des informations fondées sur l'objectivité pour prendre des décisions sur les aspects administratifs et programmatiques des opérations et de la gestion. Quoi? Papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, croyez-moi, le travail de mon père en tant qu'analyste pour l'IS, comme on l'appelle, était beaucoup, beaucoup plus intéressant que cette description. C'est juste beaucoup de langage alambiqué. Croyez-moi, son travail était beaucoup plus intéressant que cette description. Mais il était analyste, et il y a plusieurs types d'analystes. Il y a des analystes de données, il y a des analystes financiers, peut-être qu'un analyste financier est quelqu'un que vous verriez à Wall Street. Ils analysent les données financières. Il y a des analystes opérationnels, peut-être quelqu'un qui travaille dans une entreprise de fabrication. Ils ont des analystes opérationnels qui analysent les choses. Il y a les analystes économiques. Les gouvernements en ont, ils ont des hommes et des femmes qui analysent les données économiques. Il y a toutes sortes d'analystes, mais il y a un analyste, frère, auquel nous ne pensons pas souvent, dont personne ne parle vraiment. Il y a ce qu'on appelle les analystes de la Bible. Quand j'ai dit à ma femme que c'était le sujet de mon sermon, elle m'a dit « Oh, alerte à la sieste. Prépare-toi à t'endormir. » Elle n'a pas vraiment dit cela, mais ce regard de tout à l'heure quand je lisais la description du poste, je pense que j'ai eu un de ces regards « Tu vas parler d'être un analyste de la Bible. » Bien. J'espère que cela se passera bien. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. J'ai beaucoup réfléchi à cette idée d'être un analyste de la Bible, puis j'ai appris que c'était commandé par Dieu. Alors j'ai dit, « Oh, il faut que je le dise aux frères. Je dois dire aux frères de quoi il s'agit. Alors frères, je vais enseigner à chacun d'entre vous, à tous ceux qui écoutent, à chacun d'entre vous comment devenir un analyste biblique, et ce n'est pas difficile. Maintenant, je dois confesser. Je me souviens avoir été intimidé et accablé par cette idée d'analyse. Vous savez, je l'envisageais comme une partie de mon travail, je pensais à l'analyse de l'actualité, et à ce qu'est l'analyse de l'actualité. Et en fait, c'est devenu un peu embarrassant. Parce que c'était comme, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'est l'analyse. Je lisais, vous savez, le Wall Street Journal, différents journaux et différents livres, et ils parlaient tous d'analyse. Et qu'est-ce que c'est? Je lisais et je comprenais les mots, mais je ne comprenais pas comment ils étaient assemblés. Eh bien, il s'avère que je réfléchissais beaucoup, beaucoup trop. Je réfléchissais trop. Ce n'est pas difficile du tout. Pas difficile. C'est super, super facile, cette idée d'analyse. Et tu peux t'améliorer. C'est facile, mais on peut s'améliorer au fur et à mesure qu'on la comprend et qu'on la pratique. Mais vraiment, je laissais ce mot analyse, je pense que c'est ce qui me faisait peur. L'analyse, cela a l'air profond. Cela a l'air qu'il faut avoir toutes ces connaissances, mais c'est vraiment, vraiment facile. Maintenant, je veux que vous écriviez cette phrase. Je vais la répéter deux fois. Un analyste recueille, interprète et utilise des données complexes pour élaborer des mesures concrètes qui amélioreront les processus et optimiseront les résultats. Un analyste, je le répète ici, un analyste recueille, interprète et utilise des données complexes pour développer des actions concrètes qui amélioreront les processus et optimiseront les résultats. Maintenant, je veux que vous souligniez les mots recueillir, interpréter, utiliser, développer, améliorer et optimiser. Remarquez que ce sont tous des mots d'action. Ce sont tous des verbes. Ce sont des actions. Ce sont des actions qu'un analyste réalise et qu'un analyste fait. C'est ce que mon père faisait pour Lys. Il a recueilli, interprété et utilisé des données complexes pour élaborer des mesures concrètes visant à améliorer, dans ce cas, les processus de Lys et à optimiser le résultat. Encore une fois, ces histoires étaient beaucoup plus amusantes que cela, mais c'est ce qu'il faisait. C'est ce que fait un analyste de données. Un analyste de données recueille, interprète et utilise des données complexes pour élaborer des mesures exploitables, améliorer les processus et optimiser les résultats. Si c'est un analyste financier à Wall Street, c'est ce qu'il fait. Il prend ses données financières, les traite étape par étape, et aboutit à des résultats. Il en va de même pour un analyste des opérations dans une entreprise de fabrication, ou un analyste économique pour un gouvernement. Ils appliquent tous ces actions afin de réaliser ce que la définition décrit. Voici une définition encore plus simple. Si vous trouvez que celle-ci est encore un peu alambiquée, en voici une encore plus simple. Un analyste décompose quelque chose de complexe, ou qui comporte plusieurs parties, en parties plus petites, et en tire des conclusions. Un analyste décompose quelque chose de complexe en parties plus petites, et en tire des conclusions. C'est la définition que je préfère. C'est la plus facile à comprendre pour moi. Un analyste prend quelque chose qui est complexe ou stratifié, ou qui a de nombreuses parties, le décompose, décompose cette chose en parties plus petites, pose des questions, répond à ces questions, et ensuite, à partir de cela, tire des conclusions. Ce n'est pas difficile. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop réfléchi à toute cette idée d'analyse et à ce que cela représente. Alors, qu'est-ce que l'analyse biblique? Quel est ce terme? Personne n'en a jamais entendu parler. Qu'est-ce que l'analyse biblique? Eh bien, commençons par ce que dit la Bible sur l'étude de la Bible. Allez au chapitre 3 de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, nous reprendrons au verset 15. Une série de versets très familiers ici. Premièrement, excusez-moi, 2 Timothée 3, je me suis mal exprimé. 2 Timothée 3, et nous reprendrons au verset 15, et dès l'enfance. En parlant de Timothée, et dès l'enfance, tu as connu les Saintes Écritures, donc en tant que jeune homme, Timothée était familier avec les Écritures, qui peuvent te rendre sage pour le salut. Donc il y a la sagesse, et ensuite il y a la sagesse pour le salut. Quelle plus grande sagesse y a-t-il que celle-là? Par la foi dans les Écritures, qui est dans Christ Jésus. On en parle aussi dans les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Les Écritures ont beaucoup à faire. Elles sont très, très importantes. Afin que l'homme de Dieu soit parfait, parfait, c'est le résultat final, la perfection, parfaitement équipé pour toutes les bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres. Les Écritures contiennent tout ce qui est nécessaire, frères, pour que nous soyons bien équipés. Si vous pensez qu'une maison est entièrement meublée, vous ne pouvez pas y ajouter d'autres meubles. Elle est entièrement meublée, elle est entièrement utilisable. Nous pouvons tous être entièrement meublés en ce qui concerne les bonnes œuvres. Les Écritures sont les paroles de Dieu pour nous, et elles conduisent à la vie éternelle et, comme il est dit, à la perfection. Proverbes, chapitre 8. Nous sommes en train de lire ce que la Bible dit sur l'étude de la Bible. Proverbes, chapitre 8, verset 9. Proverbes, chapitre 8, verset 9. Elles sont toutes claires pour celui qui comprend, elles sont la sagesse, ou les paroles, de Dieu, et juste pour ceux qui trouvent la connaissance. Recevez mes instructions. C'est finalement Dieu qui parle. Recevez mes instructions, et non de l'argent, et la connaissance plutôt que de l'or de choix. Frères et sœurs, voyons-nous les Écritures de cette façon? Voyons-nous les Écritures comme ayant plus de valeur que l'or, que l'argent? Et pensez à tout ce que vous pourriez faire et acheter avec de l'argent, avec de l'or, dans notre cas, de l'argent, tout ce qui a de la valeur. Considérons-nous les Écritures comme ayant plus de valeur que cela? Psaume 1. Psaume 1, nous allons lire un verset ici. Psaume 1, verset 2, mais ses délices. En parlant de l'homme qui est béni. Ses délices sont dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi jour et nuit. Méditez jour et nuit sur la loi de Dieu, sur les Écritures, sur la Bible, comment faire exactement cela? Comment pouvons-nous faire cela? C'est-à-dire, jour et nuit, méditer jour et nuit. Si nous le faisons, nous sommes bénis, mais comment le faisons-nous? Acte 17. Ce sont d'excellents versets, frères, à revoir périodiquement. Que dit la Bible sur l'étude de la Bible, sur la parole de Dieu? Acte 17. Lisons l'histoire d'un groupe de personnes que nous pouvons tous chercher à imiter, nous pouvons chercher à être comme eux. Acte 17, verset 10. Acte 17, verset 10. Dans le contexte, aussitôt les frères envoyèrent de nuit Paul et Silas à Bérée, où ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce qu'ils recevaient la parole avec empressement. Ils étaient complètement ouverts, leur esprit était complètement ouvert, prêts à recevoir ce qu'ils entendaient. Leur esprit était ouvert. Ils n'étaient pas sceptiques. Ils n'étaient pas en quelque sorte penchés en arrière, et, prouvez-le. Ils avaient une disposition d'esprit, et recherchaient les Écritures. Ainsi, non seulement ils écoutaient, mais ils étaient actifs. Ils recherchaient activement les Écritures eux-mêmes. Ils prenaient ce qu'ils entendaient, et soit ils le recherchaient pour le prouver, soit ils le recherchaient pour l'approfondir. J'ai dit que c'était des gens que nous voulons, que nous pouvons tous imiter. Ils ont scruté les Écritures. pour savoir si ces choses étaient vraies. Ainsi, même s'ils n'étaient pas sceptiques, leur esprit n'était pas ouvert au point de se contenter d'accepter et de ne pas faire leurs propres recherches, pour ainsi dire. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes de valeur, grecques, et des hommes, en grand nombre. Nous voyons donc les fruits de cette étude. Des hommes et des femmes, des juifs, des grecs, cela nous parle à tous, tout, des milieux très divers. Jean 5. Jusqu'à présent, nous venons de parcourir quatre endroits dans les Écritures qui parlent de l'étude de la Bible. Voici le cinquième, Jean 5, un cinquième endroit, verset 39. Jean 5, verset 39. Cherchez dans les Écritures. Nous venons de lire à ce sujet, mais nous le voyons à nouveau. Sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Ce mot, scruter, signifie chercher et enquêter. Dieu veut que nous creusions dans sa parole. Il veut que nous y creusions, que nous y travaillions, que nous sondions les Écritures, que nous ne nous contentions pas de penser que nous avons la vie éternelle, mais que nous soyons capables de le prouver. Cependant, ce creusement, ce travail, cette recherche, a des limites. Il a ses limites. Ecclésiaste, chapitre 12. Regardez l'Ecclésiaste, chapitre 12. Nous pouvons creuser et creuser et creuser et creuser et creuser et travailler et travailler et travailler, mais cela a ses limites. Ecclésiaste 12, 12. Et encore, par ceci, mon fils, sois averti, on n'en finit pas de faire beaucoup de livres, et beaucoup d'études est une fatigue de la chair. Maintenant, cela pourrait avoir une large application. Nous pouvons étudier, étudier, et être des rats de bibliothèque. On me traitait de rat de bibliothèque quand j'étais jeune. Ce n'était pas une chose agréable à entendre. Nous pouvons tous être des rats de bibliothèque. Cela a une application générale, mais aussi des applications aux Écritures. Nous pouvons étudier, 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 et cela devient lassant. Combien de fois vous êtes-vous endormi avec la Bible ouverte, ou avec l'ordinateur ouvert, ou en écoutant un sermon? C'est juste vous, ne vous endormez pas pendant mon message. Mais vous écoutez un sermon et vous vous endormez. C'est juste fatigant. Vous essayez de tout faire passer. Cela a ses limites. Nous devons donc nous assurer, frères, que nous tirons le maximum de l'étude que nous faisons, du creusement que nous faisons. Nous comprenons, oui, l'étude est importante. Dieu veut que nous le fassions. Mais comment en tirer le meilleur parti? Comment pouvons-nous sonder les profondeurs et en extraire davantage? 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Il est donc facile de s'en souvenir, il y a 2 Timothée 2, 15, et 2 Timothée 3, 15. Ils ont tous de beaucoup à dire sur les études bibliques. C'est une bonne façon de se souvenir. Parfois, je les confonds, mais 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te montrer digne de Dieu, un ouvrier qui n'a pas besoin d'être confondu, en divisant correctement la parole de la vérité. Il y a donc beaucoup de choses là-dedans. Nous avons entendu le pasteur général en parler. Peut-être avez-vous étudié ce verset par vous-même. J'ai beaucoup réfléchi à ce verset. Il y a beaucoup de choses ici. Premièrement, il est dit d'étudier, ce qui signifie faire un effort, être prompt dans cet effort, et sérieux, sincère dans l'étude de la Bible. C'est juste à partir d'un seul mot, étudier. Pour te montrer approuvé par Dieu, ce mot, approuvé, là, est dokimo, être approuvé, c'est-à-dire acceptable, être acceptable. Dans ce cas, notre étude doit être acceptable pour Dieu. Acceptable pour Dieu, pas acceptable pour notre voisin, pas acceptable pour notre conjoint, pas acceptable pour quiconque. Acceptable pour Dieu. C'est important. Si vous êtes nouveau dans l'Église, votre étude sera différente de celle de quelqu'un qui est dans l'Église depuis 25 ans. Elle doit l'être. Elle est acceptable pour Dieu. Dieu sait où chacun de nous en est dans son étude, dans ses capacités, dans ses situations. C'est acceptable pour Dieu, pas pour quelqu'un d'autre. Souvent, nous pouvons essayer de rendre notre étude acceptable pour quelqu'un d'autre, et ensuite, malheureusement, nous la rendons difficile à maintenir, nous nous en voulons. Acceptable pour Dieu est très important. Étudiez au niveau où vous êtes, étudiez à ce niveau. Un ouvrier, cela signifie un travailleur. Nous ne pouvons pas être paresseux quand il s'agit d'étudier la Bible. Nous ne pouvons pas être paresseux, nous devons peiner avec les Écritures. Nous devons travailler avec elles, nous devons peiner, lutter avec elles. Pas littéralement, mais nous devons nous débattre avec les concepts, et nous débattre avec ceux qu'elles disent. Travailler avec eux, travailler avec eux. Ensuite, si nous le faisons, nous n'avons pas honte. Nous n'avons pas honte. Nous connaissons la parole de Dieu, nous comprenons la parole de Dieu, au niveau où nous sommes. Nous la comprenons, parce que nous avons peiné avec elle, nous avons travaillé avec elle, nous avons travaillé sur elle. Nous n'avons pas honte. Nous n'avons aucune raison d'avoir honte. Nous avons fait nos devoirs. Vous connaissez ce sentiment, vous allez en classe le lendemain, j'ai fait mes devoirs, c'est un bon sentiment, par opposition à l'alternative, j'espère qu'ils ne vont pas m'appeler. Pas besoin d'avoir honte, mais pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas honte? C'est la clé car nous pouvons diviser correctement la parole de la vérité. Nous n'avons pas honte parce que nous avons raison, nous savons comment diviser à juste titre la parole de la vérité. Ce mot signifie, diviser correctement, c'est un mot, il signifie disséquer. Pensez à la dissection d'une grenouille. Vous vous en souvenez à l'école? Vous preniez cette grenouille, et que faisiez-vous? Vous la disséquiez. Vous avez pris quelque chose de complexe, et vous l'avez brisé en petites parties. C'est cela, l'analyse. Dieu nous ordonne de faire une analyse biblique. Et frère, c'est facile. C'est facile. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Dieu nous ordonne d'analyser sa parole. Nous la lisons simplement. Ne laissez pas le mot analyser ou analyse, ne laissez pas cela vous intimider comme cela m'a intimidé. Il n'y a pas de quoi être intimidé. Tout le monde peut le faire. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Pour être un analyste de la Bible, vous devez simplement décomposer un concept biblique. Cela peut être un concept, un chapitre, un verset. Le décomposer en parties plus petites, poser des questions à son sujet, répondre à ses questions, puis tirer des conclusions de ses réponses. Si cela vous semble difficile, nous allons vous le démontrer, ce n'est pas difficile. C'est très facile à faire. En fait, je vais vous donner un exemple. Devinez où vous voyez des analyses bibliques tout le temps. Vous la voyez tout le temps. Peut-être saviez-vous que c'était une analyse biblique, peut-être pas, mais vous la voyez tout le temps. Le RT, le pilier, et les. Ce que vous lisez quand vous lisez ces articles, vous lisez le résultat d'une analyse. L'auteur a pris un concept, un verset, une série de versets, un chapitre, un livre, et il l'a décomposé en petites parties, il a posé des questions sur ces parties, il a répondu à ces questions, il a cherché et trouvé les réponses, puis il a rassemblé le tout, et écrit un article. En conséquence, chacun d'entre vous, moi-même, nous sommes capables de lire cette analyse, de lire cet article, Et de faire quoi? Nous en tirons des leçons, nous tirons des conclusions, nous prenons les conclusions de l'auteur et nous tirons nos propres conclusions. Nous voyons cela tout le temps. Et frères, chacun d'entre nous peut le faire. Chacun de nous peut le faire. Vous pourriez penser, je ne sais pas écrire. Ce n'est pas là où je veux en venir. Chacun d'entre nous peut faire ce que cet écrivain a dû faire, afin de se préparer à écrire cet article. La capacité d'écrire et les compétences associées sont différentes, mais la connaissance elle-même, chacun d'entre nous peut la faire. Ce n'est pas si difficile. C'est très facile, et c'est quelque chose que Dieu attend de nous. Nous devons le faire. Il nous est ordonné de le faire. Donc, avant que je vous enseigne, spécifiquement comment analyser l'écriture, laissez-moi vous expliquer la différence entre analyser et résumer. Il y a une grande différence. Une différence entre l'analyse et le résumé. Qu'est-ce qu'un résumé? Eh bien, résumé signifie présenter des faits et des idées d'une manière plus concise. Donc vous prenez beaucoup de faits, beaucoup de données, beaucoup d'informations, et vous les réduisez. Vous les résumez, vous les présentez de manière plus concise. Ainsi, un document de 100 ou 10 pages peut être réduit à une page ou une demi-page, un paragraphe, une phrase. C'est cela résumé. Vous pouvez résumer les points principaux, vous pouvez résumer les déclarations qui ont été faites dans ces points, vous pouvez résumer les événements impliqués dans ces points, vous pouvez résumer les personnes impliquées, mais la clé est qu'avec un résumé, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas de controverse ou de conflit, ce sont juste les faits. Vous ne faites que répéter les faits, mais vous le faites de manière concise. Ainsi, si une personne veut savoir ce que dit un document de 100 pages, par exemple, ou un document de 10 pages, vous pouvez le résumer pour elle. Nous le faisons tout le temps, et nous en profitons. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais la clé est qu'avec un résumé, il n'y a pas d'argument ou de conclusion qui est tiré. Ce ne sont que des faits. Regardez la Genèse, chapitre 1. Nous allons résumer les trois premiers chapitres de la Genèse. Genèse, chapitre 1. Que faisons-nous, frères? Je vous montre, je vous explique, comment être un analyste de la Bible. Genèse, chapitre 1. Et pour l'instant, nous nous concentrons sur la différence entre l'analyse et le résumé. D'accord? Donc, Genèse, chapitre 1, si vous regardez le chapitre, tout nous est familier. C'est pourquoi je suis allé dans ce livre. Nous n'avons pas besoin de le lire point par point pour le comprendre. Nous le connaissons tous, mais le résumé du chapitre 1 est que Dieu décrit en détail ce qu'il a créé dans les sept premiers jours, ou en sept jours, dites-le de cette façon. Dieu nous donne une description, en détail, de ce qu'il a créé en sept jours. Maintenant, un résumé peut donner plus de détails. Nous pouvons entrer dans ce qu'il a créé en quel jour et dans quel ordre, mais ce n'est qu'un résumé. Bien. C'est donc la Genèse, chapitre 1. Au chapitre 2, nous voyons que Dieu a créé l'homme. Il a décrit le jardin, a parlé un peu de cela et des rivières qui y sont associées, son emplacement. Il a donné un ordre concernant deux arbres. Il a également décrit la création de la femme, d'où venait une femme, et des instructions concernant la famille. D'accord? Voilà donc un résumé de la Genèse, chapitre 2. Au chapitre 3, nous voyons la chute de l'homme. L'homme a été tenté par le diable. Nous avons vu que le diable a poussé Ève et Adam à manger du mauvais arbre. Dieu leur demande des comptes pour leurs péchés. Ils ont fait le mauvais choix. Dieu revient en arrière et a un va-et-vient avec eux, et leur demande des comptes. Puis, Adam et Ève sont finalement chassés du jardin. Encore une fois, un résumé peut contenir plus ou moins de détails. Nous pouvons examiner exactement ce que Satan a dit à Ève, nous pouvons examiner sa réponse. Nous pouvons aborder toutes sortes de choses, mais au bout du compte, il s'agit d'un résumé. Frères et sœurs, savoir ce qui s'est passé est très important, et je ne veux pas le minimiser. C'est très important. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Nous devons connaître les faits. Nous devons connaître les faits. Cependant, beaucoup limitent leur étude de la Bible à un simple résumé. Ils ne font que résumer et se concentrent sur les faits. Et j'utilise cette limite de mots. En faisant cela, et je l'ai fait, j'ai été coincé là, nous pouvons limiter notre étude de la Bible et ensuite nous nous demandons, eh bien, pourquoi est-ce que cela devient ennuyeux? Pourquoi dois-je déployer autant d'énergie pour étudier la Bible? Je sais que je dois le faire. Je sais qu'on me l'ordonne. Eh bien, c'est parce que les faits ne changent pas. Les faits sont ce qu'ils sont. Vous devez les connaître. Vous devez savoir ce qu'ils sont, mais si nous nous concentrons uniquement sur la connaissance, et si nous nous concentrons uniquement sur les faits qui se sont produits, c'est à peu près tout. Nous avons presque construit une boîte pour nous-mêmes. Alors, en quoi l'analyse est-elle différente du résumé? Pensez-y. En quoi l'analyse est-elle différente du résumé? Pensez à tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. En quoi l'analyse est-elle différente de tout cela? Eh bien, encore une fois, l'analyse décompose les détails et les éléments, pose des questions critiques sur chacun de ces éléments, pose les questions, puis répond aux questions, prend ses réponses, puis tire des conclusions. C'est l'analyse biblique. C'est très facile. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Appliquons cela à la Genèse 1 à 3. Nous allons le faire rapidement. Au lieu de simplement résumer la Genèse, chapitre 1, quand nous avons dit que Dieu a créé la terre. Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre sans forme et vide? Pourquoi faire cela? Nous avons vu plus tard qu'il a la capacité de créer simplement des choses, et elles sont belles, et elles fonctionnent déjà et pleinement. Pourquoi Dieu aurait-il créé la terre sans forme et sans vide? On se demande alors s'il a recréé la terre. La terre était-elle là avant? Si elle était là avant, à quoi ressemblait-elle? Qui vivait sur la terre? Comment Dieu a-t-il créé la terre? Il semble qu'il l'ait faite en 6 jours littéralement. Comment cela est-il possible? Comment Dieu a-t-il pu créer toutes ces choses en 6 jours? À quoi cela ressemble-t-il? Se sont-ils simplement formés? Si vous vous teniez là et que vous observiez la scène, avez-vous vu quelque chose sortir du néant? À quoi cela ressemble-t-il? Pourquoi Dieu voulait-il que nous sachions qu'il avait créé l'univers en 6 jours? Il n'avait pas besoin de nous le dire. Pourquoi Dieu nous dirait-il qu'il l'a fait en 6 jours? Quelle est l'importance de ce fait? S'est-il reposé le jour du sabbat? Pourquoi a-t-il pris un jour entier? Il a fait tellement de choses les 6 autres jours. Regardez chaque jour, il y avait beaucoup d'actions. Je suis sûr que, du soir au matin, il y avait beaucoup d'activités. Pourquoi Dieu prendrait-il un jour entier, un 7e jour entier pour se reposer? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme? Dans le chapitre 2, quel était son but? Comment a-t-il créé l'homme? Par exemple, nous avons vu plus tard, au chapitre 3, que Dieu a interagi avec Adam dans le jardin. Dieu était donc présent. Alors, quand il a formé l'homme, l'a-t-il formé de ses propres mains? Quand il est dit qu'il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, a-t-il réellement soufflé dans ses narines le souffle de vie? Était-ce comme un massage cardiaque? À quoi cela ressemble-t-il? Pourquoi Dieu a-t-il donné des instructions au sujet de 2 arbres? Pourquoi aurait-il mis un arbre mortel au milieu du jardin, ou dans le jardin? Pourquoi aurait-il fait cela? Pourquoi mettrait-il un arbre de vie et ensuite un arbre mortel, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et donnerait-il ensuite le choix à l'homme? Pourquoi faire cela? Pourquoi a-t-il mis en place la structure familiale? Il a appelé Ève une femme, Adam était un mari, y a-t-il eu une cérémonie de mariage? Pourquoi Ève n'a-t-elle pas trouvé étrange qu'un serpent lui parle? Tous les animaux parlaient-ils? Peut-être était-elle tellement absorbée par l'arbre qu'elle n'a même pas remarqué qu'un serpent lui parlait. Où était Adam pendant tout cet échange entre le serpent et Ève? Où était Adam? Que faisait-il? Que fait-il? Et c'est dans, nous pouvons tourner là, c'est dans la Genèse 3 verset 7, quelque chose qui m'a frappé, Genèse 3 verset 7, que signifient les yeux de tous de s'ouvrir? Il est dit ici, leurs yeux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc leurs yeux étaient-ils fermés avant? Ils se promenaient avec les paupières fermées. Je suis un peu bête, mais... Alors pourquoi dire que les yeux de tous les deux étaient ouverts? Frères et sœurs, je pourrais juste, nous pourrions continuer avec tant d'autres questions. Tant d'autres questions. Toutes ces questions ont des réponses. Toutes ces questions que je pose, toutes, elles ont des réponses. Certaines d'entre elles, vous y avez probablement répondu parce que vous connaissez les questions. Peut-être vous êtes-vous déjà posé la même question. Peut-être avez-vous, au fil des ans, entendu des sermons qui abordaient ces mêmes questions. Mais ces questions ont toutes des réponses, et ces réponses mènent finalement à des conclusions. Nous prenons ces informations et nous en tirons des conclusions. Rappelez-vous ce que fait un analyste. Je vais revenir à la définition. Un analyste. Vous l'avez écrite et souligné, un analyste recueille, interprète et utilise des données complexes. Pensez à tout ce que nous venons de lire, pas nécessairement complexe dans le sens où c'était difficile à comprendre, mais complexe dans le sens où il y en avait beaucoup. Mais revenons à la définition. Utilise des données complexes pour développer des étapes réalisables qui amélioreront les processus et optimiseront les résultats. En tant que chrétiens, nous voulons rassembler, interpréter et utiliser les Écritures pour développer des étapes exploitables, afin d'améliorer nos processus dans la vie, les décisions et les choix que nous faisons. Nous voulons optimiser nos propres résultats. Vous vous souvenez? Nous avons parlé de perfection et de salut. Nous voulons optimiser cela. Nous voulons optimiser ces possibilités. C'est ce que fait un analyste. Vous voyez comment cela marche? Ce n'est pas très difficile. C'est vrai. Nous devons simplement le comprendre. Donc l'analyse biblique, comme je l'ai dit, va beaucoup plus loin qu'un simple résumé. Nous pouvons prendre tous les faits, et nous pouvons avoir des connaissances bibliques sur ces faits. Nous pouvons savoir ce qui a été créé le sixième jour, et que l'homme est venu en premier, et que la femme est venue de l'homme, et nous pourrions savoir toutes ces choses. Mais ce ne sont que des faits, ce n'est qu'un résumé, et c'est bien. C'est bien, mais si nous voulons aller plus loin que cela, nous devons creuser. Nous devons creuser. Vous vous souvenez de cela? Nous devons être des bûcherons et nous devons appliquer l'analyse. Les analystes bibliques examinent les faits et les détails des Écritures, puis posent des questions sur ces Écritures, et arrivent à leurs propres conclusions. Parfois les conclusions sont évidentes, elles sont très faciles, mais parfois elles ne sont pas aussi évidentes, et nous devons chercher la réponse. Mais un bon analyste va creuser et poser des questions. Pensez au laboureur, à l'ouvrier qui n'a pas honte. Il fait des efforts pour obtenir les informations dont il a besoin. Donc, vraiment, cette capacité à appliquer l'analyse biblique est importante. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle, par exemple, C'est la raison pour laquelle deux personnes peuvent entendre la même série de versets et en tirer quelque chose de complètement différent. Les faits sont ceux qu'ils sont, mais en fonction des questions qu'ils se posent, de leur expérience, de toutes ces choses, ces deux personnes, avec l'Esprit de Dieu, remarquez bien, peuvent tirer de choses complètement différentes de ces versets. Pensez à ceci, vous entendez un sermon, vous apprenez toutes ces choses merveilleuses de ce sermon, vous entendez ce même sermon 3 ans plus tard, vous apprenez des choses complètement différentes de ce sermon. Que s'est-il passé? Les faits du sermon n'ont pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Notre analyse du sermon a changé. Les questions que nous nous posons ont changé. Ces questions ont des réponses différentes, ces réponses mènent à des conclusions différentes. C'est cela, l'analyse biblique. L'analyse, frère, avec le temps, peut se développer et mûrir comme nous nous développons et mûrissons. Voyons donc comment analyser. Parlons de quelques détails sur la façon d'analyser. Tout d'abord, une analyse de qualité nécessite 3 choses. Elle requiert 3 choses. Premièrement, un processus de réflexion solide. Vous devez donc avoir un processus solide, une façon solide de penser. Il faut aussi une structure organisée. Plus la structure est organisée, plus elle est facile à réaliser. Et troisièmement, il faut, vous avez besoin, j'ai besoin, de la capacité de plonger profondément dans le sens de ce que nous lisons, et, frère, nous pouvons tous le faire si nous ne réfléchissons pas trop. Nous pouvons tous le faire, plonger en profondeur dans le texte, explorer le texte, travailler avec lui. Chacun d'entre vous, je suis sûr que chacun d'entre vous, a des degrés divers, selon votre ancienneté dans l'Église, selon votre âge, à des degrés divers, mais chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a la capacité de faire une plongée en profondeur au-delà de la simple lecture du texte. Nous avons tous la capacité de le faire. Ce dont nous devons nous assurer, c'est que nous avons aussi le désir de le faire. Nous devons avoir le désir de le faire. Nous devons avoir envie de le faire. Croyez-moi, frère, vous aurez envie de le faire lorsque vous en retirerez davantage. Quand vous en retirerez davantage, vous ne pourrez plus attendre pour le faire. Vous ne pouvez pas attendre de vous y plonger, parce que c'est tellement gratifiant. Cela vous change, et vous en voulez plus, j'en veux plus. Avant même d'aborder les étapes, les 3 choses requises sont un processus de réflexion solide, une structure organisée et la capacité de plonger en profondeur dans le texte. Je vais vous donner le processus de pensée et la structure. Vous avez déjà cette capacité. Il vous suffit d'avoir le désir d'aller de pair avec elle. Bien. Très bien, donc la première étape, et je voulais juste rendre cela vraiment facile, alors j'y ai travaillé. On va voir comment je m'en sors. D'abord, vous devez choisir un sujet, ou une étude, ou un domaine d'étude. Vous devez donc choisir ce que vous voulez étudier. Cela peut être un récit, un certain récit biblique sur lequel vous voulez en savoir plus, peut-être en avez-vous entendu parler dans un sermon, une partie de ce récit dans un sermon, et vous vous êtes dit, je veux en savoir plus sur ce sujet. Il peut donc s'agir d'un récit, d'un chapitre d'un livre, d'un des livres de la Bible. Cela pourrait être un sujet comme la colère, la joie, les ragots, la foi. Donc, des versets comme cela peuvent se trouver partout dans la Bible. Il peut s'agir des 10 commandements, par exemple, mais, vous savez, vous les voyez comme un ensemble complet de commandements. Ce pourrait être le sermon sur la montagne. Je pense à Matthieu 5 et 7, beaucoup de choses ont été dites dans tous ces versets. Mais la première étape consiste à choisir le domaine ou le sujet que vous voulez étudier. Ce n'est pas trop difficile, non? Très facile. Eh bien, parfois, cela peut être difficile. Il y a tellement de choses à étudier, par où commencer? Mais vous ne pouvez étudier qu'une chose à la fois, alors choisissez ce que vous voulez étudier, et vous avez vos propres raisons pour votre choix. Donc la deuxième étape est de le lire. Lisez le récit. Lisez le chapitre. Si c'est un sujet, rassemblez tous les versets et lisez-les. Les 10 commandements, lisez-les. Le sermon sur la montagne, lisez-le. Lisez-le et familiarisez-vous avec lui, puis relisez-le si nécessaire. L'objectif est de faire en sorte que ces détails vous sautent aux yeux. Donc vous lisez, vous relisez si nécessaire, peut-être même en résumant certains éléments qui vous ont sauté aux yeux. C'est donc la deuxième étape. Vous avez déjà choisi le sujet, ou choisi le domaine, choisi le chapitre, choisi le récit, maintenant vous le lisez. Vous le lisez. Vous vous familiarisez avec lui. C'est la deuxième étape. Troisième étape, décomposez le texte en parties plus petites. Si c'est un récit, peut-être que le récit s'est déroulé dans différents contextes, si c'est un récit plus long. Alors vous voulez peut-être le diviser par cadre. Par exemple, si vous pensez à David, si nous avons assez de temps, nous pourrons parler un peu plus de cette histoire, mais David a été choisi. Et je pense que c'était Saül, ou pas Saül, mais Samuel, Samuel a parlé avec Jessé et lui a demandé de faire sortir ses fils. Et vous connaissez tous le récit, et vous le parcourez, et puis finalement, ils sont arrivés à David. Et vous pensez à David en train de garder les moutons. Donc, si vous étudiez, disons, l'ascension de David au trône, vous pouvez commencer par la façon dont il a été choisi. Vous ne vous concentrez donc que sur les versets qui expliquent comment il a été choisi parmi ses frères. Ainsi, au lieu d'essayer de traiter cette question, puis de la mener à affronter Goliath, puis de la mener à affronter Saül, puis de la mener à fuir et enfin de la mener à monter sur le trône, toutes les choses qui sont associées à la montée de David sur le trône, vous vous concentrez uniquement sur la partie où il a été sélectionné. Donc vous le prenez et vous le décomposez en petites parties. Si ce sont les 10 commandements, vous prenez juste un commandement. Vous prenez les 10, vous les décomposez, vous n'en prenez qu'un, ou bien vous prenez les 4 premiers, qui sont centrés sur l'amour de Dieu, et vous prenez les 6 suivants, ou vous prenez les 6 suivants, et vous vous concentrez sur l'amour envers l'homme. Selon ce que vous faites, vous pouvez le décomposer de différentes manières. Bien. Donc, premièrement, vous choisissez le sujet ou le domaine à étudier. Deuxièmement, vous lisez, relisez si nécessaire, résumez si nécessaire, et ensuite vous décomposez le texte en plus petites parties. La quatrième étape consiste à méditer et à poser des questions. Méditez et posez des questions. Prenez ces éléments, prenez l'élément que vous avez décomposé et que vous avez créé, cette plus petite partie, demandez qui, peut-être, ou quoi, quand, où, pourquoi et comment. Tu te souviens de cela? Qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Toutes les choses qui mènent à des questions. Et ceci est un point important, écrivez les questions. Notez-les. Alors imaginez-vous, vous êtes assis, vous êtes à votre table, vous avez un café, vous avez un bloc-notes vierge, vous avez un carnet à spirale, vous avez OneNote ouvert sur votre ordinateur, peu importe comment vous choisissez de prendre des notes. Et vous avez votre tasse de café, vous avez votre Bible, et vous avez votre bloc-notes. Vous lisez le récit, vous avez choisi le sujet, vous écrivez le sujet, puis vous le décomposez en plus petites parties. Vous écrivez cette petite partie. Juste, vous savez, juste un des commandements. Alors vous commencez à vous poser des questions. La clé, c'est d'écrire ces questions, de les écrire sur le bloc-notes, de les taper. Mais il est important de saisir et d'enregistrer ces questions parce que vous devez y revenir et y répondre, et si vous êtes comme moi, j'ai tendance à oublier les questions si je ne les écris pas. Notez donc les questions. C'est très important. C'est sur ce point que je vois des gens perdre leur confiance, parce qu'ils se disent, je ne sais pas quelles questions poser. Ça a l'air si facile avec vous, Monsieur Wingfield. Je ne sais pas quelles questions poser. Je lis le compte-rendu, mais je me demande quelles sont les questions que je devrais poser. C'est ce que je faisais avec l'analyse des nouvelles. Je la rendais beaucoup trop compliquée. Ce n'est pas compliqué. Quelles sont les questions que vous pouvez poser? Eh bien, il suffit de regarder ce qui vous saute aux yeux dans le texte. Et pendant que vous le lisez, certaines choses devraient vous sauter aux yeux. Oh, c'est intéressant. Pourquoi cela a été écrit comme cela? Encore une fois, vous pouvez vous améliorer, mais voyez ce qui vous saute aux yeux. Recherchez les personnages principaux du texte. Pensez à leurs traits de caractère. Comment agissent-ils? Comment réagissent-ils? Pourquoi réagissent-ils de cette façon? Quels sont leurs choix? Quelles sont leurs perspectives et leurs points de vue? Recherchez les conflits et les accords. Si quelqu'un est en désaccord avec quelqu'un ou quelque chose dans le texte, il est important de le noter. Ou bien, s'il est d'accord, c'est un autre élément à noter. Quel est le cadre, l'ambiance ou le ton dans lequel les mots sont écrits? Quel est le point de vue de l'auteur? L'écrivain ultime est Dieu. Quel est le point de vue de Dieu? Quel est le point de vue de l'homme qui a écrit ces mots? Y a-t-il une intrigue secondaire? Il y a ce qui se passe, mais y a-t-il quelque chose de sous-jacent, peut-être moins évident, qui se passe? Quand on pense à David, par exemple, on se dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, et que Dieu lui a fait certaines promesses. Et quand vous lisez et que vous voyez son ascension au trône, l'ascension est ce que vous lisez en surface, mais en dessous vous voyez que Dieu guide les événements et vous n'oubliez pas que Dieu guide ces événements, c'est l'intrigue secondaire. C'est le thème sous-jacent que nous ne voulons pas oublier. C'est ce qui va donner du goût à ce que vous lisez. Comment les éléments se connectent-ils les uns aux autres? Vous vous rappelez que nous l'avons décomposé? Vous vous souvenez des 10 commandements, on les a décomposés. Vous avez pris un commandement. Eh bien, n'oubliez pas, demandez-vous comment cet élément, ce commandement, est lié aux autres commandements. Ce sont toutes les questions, frères, que nous pourrions nous poser et écrire. Notez ces questions. Quelles sont les forces et les faiblesses des personnages, de la situation? Les avantages et les inconvénients? Autant de questions que nous pouvons formuler en fonction du texte, en fonction de ce à quoi nous essayons de répondre. Ce n'est pas difficile. Faut-il y travailler? Oui. Est-ce qu'on s'améliore? Oui. Mais chacun d'entre nous peut le faire. Mais ces questions, cette étape 4 est très importante. Ces questions sont le carburant de l'analyse. Elles sont le carburant. C'est ce qui permet de passer du résumé à l'analyse. Elles sont très importantes, ces questions. On pourrait dire qu'elles sont l'étape la plus importante de toutes. Très bien, cinquième étape, répondre aux questions. Répondre aux questions. C'est pourquoi vous aviez besoin de les écrire. Allez-y et répondez-y. Parfois la réponse se trouve juste là, dans le verset, souvent elle se trouve ailleurs dans la Bible, vous devez aller la chercher, ou vous devez la rechercher. Peut-être devez-vous sortir de la Bible s'il s'agit de quelque chose, peut-être de l'histoire. Nous vivons à l'ère de l'information, vous pouvez simplement chercher sur Google. Ce n'est pas très difficile. Mais répondez aux questions. Vous avez les questions et vous avez les réponses, et ces réponses peuvent venir de n'importe où. Vous voulez vous assurer qu'elles sont crédibles, que les sources sont crédibles. Si c'est la Bible, elle est crédible. Mais répondez aux questions, et ensuite utilisez ces réponses pour faire l'étape 6, tirer des conclusions. Tirer des conclusions. Les conclusions sont basées sur les questions et les réponses de chacun de ces éléments. Alors, j'avais raison. Est-ce que c'est trop avancé? C'est trop difficile? Ah non, cela ne l'est pas. Ce n'est pas le cas. Lorsque nous tirons des conclusions, frères, nous pouvons les lier toutes ensemble et former une conclusion globale. Laissez-moi vous le démontrer. Une thèse, ou une conclusion, qui? La thèse, c'est quand vous êtes à l'université, quand vous êtes à l'école, on l'appelle une thèse. Quand vous êtes ici, nous autres, on appelle cela des conclusions, mais à l'université, ils doivent faire preuve de fantaisie, et appeler cela une thèse. Une thèse est une déclaration, mais ce n'est pas très difficile, c'est juste une conclusion. Par exemple, une conclusion, ou une thèse, de la Genèse 1 pourrait être que Dieu est tout-puissant. C'est une conclusion à laquelle nous pourrions parvenir après avoir lu les chapitres 1 à 3 de la Genèse. Voir un être capable de créer la terre, de recréer la terre, comme nous l'apprendrons au fil de notre analyse, de le faire en 6 jours, est un être tout-puissant. Être capable de former l'homme et de lui souffler dans les narines, c'est impressionnant. C'est un être qui est digne d'être adoré. C'est une conclusion que l'on peut tirer en étudiant, en analysant, en posant des questions et en y répondant. Une autre conclusion que l'on peut tirer de la Genèse 1 à 3 est que l'unité familiale se compose d'un homme et d'une femme, et que cet homme et cette femme ont des enfants, et que ces enfants grandissent, quittent leur père et leur mère, s'attachent à une femme, ils perpétuent l'unité familiale, et cela continue encore et encore. C'est une conclusion que nous pouvons tirer de cette analyse. Comment l'appliquer? Aujourd'hui, quelqu'un se demande, qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce que c'est vraiment? Nous pourrions revenir en arrière, Genèse 1, reprendre cette analyse et nous pouvons l'expliquer. Et nous pouvons dire, vous savez quoi? C'était dès le début, le premier couple était marié. Une autre conclusion que nous pouvons tirer de notre analyse est que Satan, encore aujourd'hui, tente l'homme par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie. Ce que Satan a fait dans le jardin, il le fait encore aujourd'hui, et il utilise ces mêmes tactiques usées pour tenter l'humanité. C'est une conclusion que nous pouvons tirer du travail que nous avons fait, de cette analyse. Cela semble si élevé. Ce n'est pas le cas. C'est très facile. Nous le faisons tout le temps. Alors, frères, quels sont les principaux obstacles à l'analyse de la Bible? Vous savez, si mon objectif est de vous convaincre, de vous rallier à cette idée de devenir un analyste de la Bible, nous devons parler des raisons pour lesquelles les gens ne le font pas, afin que je puisse vous persuader de le faire. Alors pourquoi les gens n'analysent-ils pas la Bible? Quels sont les obstacles qui les empêchent de le faire? Eh bien, le plus évident, ou le premier, c'est qu'ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Ils n'y ont peut-être jamais pensé de cette façon, ou ne l'ont jamais vraiment compris. Donc, si vous ne connaissez pas ce processus, ou si personne ne vous l'a jamais enseigné, c'est une raison majeure pour laquelle vous ne le faites pas. Mais maintenant, vous n'avez aucune excuse, je vous ai enseigné le processus. Vous le connaissez. Vous allez étudier ce processus, vous allez le mettre en pratique, et vous allez voir des fruits. La raison principale pour laquelle les gens ne le font pas est qu'ils ne savent pas comment, ils ne le comprennent pas complètement. Mais quelle est une autre raison, un autre obstacle à l'analyse de la Bible? Ne pas chercher à être guidé par Dieu. Ne pas chercher à être guidé par Dieu. Rappelez-vous quand vous avez été appelé. Je me rappelle quand j'ai été appelé. J'ai soudainement commencé à comprendre des choses que je ne comprenais pas auparavant. Je lisais des versets et soudain, il m'apparaissait comme « Oh là là, je comprends cela maintenant. Ça a vraiment du sens. » Et cela semblait être soudain. C'était sur une période de temps, mais relativement parlant, c'était assez soudain. C'est la preuve que Dieu a ouvert mon esprit à la compréhension de ces vérités. Nous avons tous vécu la même chose. C'est ainsi que nous savons, c'est la preuve, c'est le fruit du fait que nous sommes appelés. Eh bien, frères, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous ne pouvons pas oublier que c'est Dieu qui a ouvert notre esprit en premier lieu. Un grand obstacle à l'analyse de la Bible, ou à l'analyse réussie de la Bible, ou à l'étude de la Bible, c'est de ne pas chercher à être guidé par Dieu. Proverbes, chapitre 3. Proverbes, chapitre 3. Nous devons nous rappeler que c'est Dieu qui a ouvert notre esprit en premier lieu. Proverbes, chapitre 3, verset 5. Proverbes, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies. En incluant l'étude de la Bible, j'ajouterai. Dans toutes vos voies, faites quoi? Le reconnaître. Dans notre étude de la Bible, nous devons reconnaître Dieu. Nous devons reconnaître le fait que c'est la parole de Dieu, et nous devons reconnaître le fait que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour la comprendre. Que fera-t-il? Il dirigera nos chemins. Il dirigera notre chemin dans notre étude de la Bible. J'ai parlé tout à l'heure d'un processus assez vaste. Je veux que Dieu me guide à travers tout cela. Vous voulez que Dieu vous dirige à travers tout cela. Nous ne pouvons pas oublier l'importance, frères, du Saint-Esprit dans ce processus. J'ai parlé de s'asseoir avec la Bible et le bloc-notes et le stylo ou l'ordinateur portable, mais nous ne pouvons pas oublier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas oublier que c'est Dieu qui le guide en fin de compte. Je pointe ici, parce que c'est le siège de l'Esprit, c'est là que se trouve le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas oublier le Saint-Esprit. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 14. Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous pensez à Dieu notre Père, nous sommes ses fils, mais nous ne sommes fils que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons nous appeler fils et filles tant que nous voulons, mais si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, alors nous ne sommes pas fils et filles de Dieu. C'est la raison pour laquelle, frères, j'ai dit que notre étude était plus profonde que celle des théologiens du monde, c'est à cela que je faisais référence. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous guide, bonne chance, et nous ne croyons pas à la chance. Bonne chance. Vous avez peut-être une bonne idée du résumé de ce que disent les versets, mais à partir de là, c'est votre propre interprétation, c'est une interprétation privée. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu qui vous guide. Ces théologiens n'ont pas l'Esprit de Dieu qui les guide. Nous l'avons. Nous pouvons comprendre des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous en sommes toujours à cette question de ne pas chercher à être guidé par Dieu et comment cela constitue un obstacle à l'analyse ou à l'étude de la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 2. Quelques-uns de mes versets préférés ici. Je suis toujours intrigué par cela. 1 Corinthiens, chapitre 2, nous reprendrons au verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Or, comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et il n'est pas entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Je suis toujours fasciné par le fait que l'esprit qui est en nous est le même qui sonde les choses profondes de Dieu. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais cet esprit cherche, il ne cherche pas seulement Dieu, il cherche les choses profondes de Dieu. Car quel homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, les choses de Dieu ne sont connues de personne, si ce n'est de l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons connaître les choses de Dieu, ce livre, cette parole, nous pouvons les connaître par l'esprit de Dieu, les choses profondes de Dieu. La Bible est la pensée de Dieu, pas notre pensée. Vous savez, j'ai beaucoup parlé ici de l'étude, de tirer nos propres conclusions, de chercher et de faire toutes ces choses, mais, frères, nous devons le faire dans le domaine du Saint-Esprit, dans le domaine des enseignements de l'Église. Nous ne pouvons pas prendre nos propres tangentes. C'est une étude biblique incorrecte. Il y a beaucoup de place, beaucoup d'espace, pour nous permettre de jouer, de nous amuser, d'apprendre, de tirer des conclusions, de poser des questions, de répondre à ces questions. Il y a beaucoup d'espace. Nous devons simplement le faire sous la direction de Dieu, en étant conduits par l'Esprit de Dieu. Quelle est une autre raison, un autre obstacle, un autre défi lorsqu'il s'agit d'analyser la Bible, d'étudier la Bible? La lecture trop rapide. Lire trop vite. Ciel, je l'ai déjà fait. Bien souvent, frères, nous lisons la Bible sans réfléchir à ce que nous lisons, sans ralentir et sans comprendre exactement ce que nous lisons. Ralentissez. Pourquoi cette hâte? Pourquoi cette hâte? Ralentissez. 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Méditez sur ces choses. Il parle des enseignements et de tout ce qui a précédé. Méditez sur ces choses, donnez-vous entièrement à elles, afin que votre profit apparaisse à tous. Lorsque nous étudions et que nous nous donnons entièrement aux Écritures. Entièrement, WHOLLY. Entièrement aux Écritures, les gens le voient. C'est apparent. Ils peuvent le dire. Les fruits sont évidents. Prends garde à toi-même, 16, et à la doctrine, persévère en elle, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écouteront. C'est une instruction à Timothée en tant qu'évangéliste, qui doit sortir et enseigner. Mais j'ai choisi ce verset, là, parce que méditer signifie tourner dans l'esprit. Donc vous pensez à ce concept qu'il y a quelque chose à laquelle vous pensez, et vous êtes juste en train de la faire tourner dans votre esprit. Vous ne faites qu'y penser. Vous le faites tourner dans votre esprit et vous le regardez de différents points de vue, en dessous, au-dessus et sur les côtés. Vous faites tourner, vous permettez à ce concept de tourner. Quel que soit ce sur quoi vous vous concentrez, ce que vous étudiez, vous le faites tourner dans votre esprit, vous méditez dessus. Ralentissez, sinon, l'analyse de la Bible est juste un trop grand défi. L'étude de la Bible est tout simplement un trop grand défi. Ralentir, frère, peut être la manière la plus facile de commencer ce que je vous enseigne aujourd'hui. Le moyen le plus simple est de ralentir. Pas si vite, mais je comprends, nous lisons vite, nous allons vite. Pourquoi ? Nous sommes occupés. Nous sommes occupés. Je suis occupé. Vous êtes occupé. Nous savons que nous devons étudier, mais nous sommes occupés, alors nous lisons vite et nous appelons cela étudier, et c'est le cas, mais ce n'est que de la surface, ce ne sera pas la profondeur que nous voulons tous vraiment. Mais c'est la beauté du processus dont nous avons parlé. C'est là toute la beauté de la chose. La beauté de la chose est que nous n'avons pas à accomplir tout cela en une seule fois. Peut-être que le premier jour, vous choisissez votre sujet. C'est tout ce que vous faites ce jour-là. C'est tout ce que tu fais. On se concentre vraiment sur le sujet que l'on veut étudier. Cela demande de la réflexion, surtout si l'on veut aller en profondeur. Une journée. Peut-être que vous prenez 2 jours pour le faire. Que faites-vous le jour suivant, ou 2 jours plus tard? Vous le lisez. Vous le lisez, tout simplement. C'est tout ce que vous faites. Vous le lisez et le relisez. Vous prenez le processus que je vous ai donné, dont nous avons discuté, et vous le répartissez sur plusieurs jours. À partir de là, vous le lisez, le jour suivant, la prochaine fois que vous étudiez, vous ne faites que poser des questions. Vous écrivez seulement des questions. C'est tout ce que vous faites. Vous ne faites rien d'autre. Le jour suivant, la prochaine fois que vous vous asseyez et étudiez, vous répondez aux questions. Cela prendra probablement plusieurs jours, en fonction des questions et du nombre de questions, et de ce que vous devez faire pour répondre à ces questions. Cela peut prendre des semaines. Cela pourrait prendre des semaines. Frères et sœurs, c'est cela l'étude, c'est cela l'analyse. Nous tirons des conclusions. Combien de temps cela peut-il prendre? Et la beauté de la chose, c'est que vous avez écrit tout cela, vous l'avez enregistré. C'est un trésor dans lequel vous pouvez creuser pendant des années de trésor. Il n'y a pas besoin d'aller vite. C'est toute l'étude de la Bible. Un autre obstacle, une autre raison pour laquelle, un autre défi à l'étude profonde de la Bible, à l'analyse profonde de la Bible, c'est de ne pas poser des questions. Nous en avons parlé un peu, mais ne pas poser des questions. Il suffit de lire les versets et de ne pas ralentir pour poser des questions. Frères et sœurs, je veux que nous nous considérions comme interagissant avec les versets. Voyez-vous comme interagissant avec les Écritures. Une autre façon de voir les choses est de se demander d'où vient la parole. Ce sont les paroles de Dieu. Donc, en interagissant avec les Écritures, avec qui interagissons-nous? Nous interagissons avec Dieu. Imaginez-vous en train d'interagir avec Dieu. Que feriez-vous? Je sais ce que je ferais. Que feriez-vous si vous étiez en interaction avec Dieu? Vous poseriez beaucoup de questions. N'est-ce pas? Je le ferai. J'en ai l'intention. Voyez-vous-même, nous devons nous voir comme interagissant avec les Écritures. Amusons-nous avec un autre exemple, Luc 22. Luc 22. Les exemples sont toujours amusants. Nous pouvons parler de la théorie et de la façon dont cela fonctionne, mais continuons à le voir en action. Nous l'avons vu dans la Genèse. Voyons-le ici, dans Luc 22. Bien, voici le récit, donc nous avons choisi notre sujet, c'est un récit. C'est le récit où Pierre renie Christ. Nous sommes tous familiers avec cela. Nous en avons entendu parler. Donc Luc 22, j'y arriverai moi-même, nous le reprendrons au verset 31. Luc 22, verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, voici que Satan désire t'avoir, afin de te cribler comme le blé. » C'est Christ qui parle à Pierre, et il lui dit ce que Satan veut de lui. « Mais, dit Christ, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, fortifie les frères. » Et il lui dit, c'est la réponse de Pierre, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » 34. Et il dit, « Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies 3 fois nié me connaître. » Quel échange puissant! Très bien, nous descendons à 54, alors ils le prirent, parlant du Christ, ils le prirent, le menèrent, et l'amenèrent dans la maison du grand prêtre. Et Pierre suivait de loin. Nous voyons déjà Pierre qui regarde de loin. Comme ils allumaient un feu au milieu de la salle, et qu'ils se mettaient à table, Pierre s'assit au milieu d'eux. Une jeune fille, qui le voyait assis près du feu, l'observa attentivement, et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Elle la reconnut. Et il le renia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Un peu plus tard, un autre le vit, et dit, « Toi aussi, tu es des leurs. » Et Pierre dit, « Homme, je ne le suis pas. » Environ une heure après, un autre affirma avec assurance, « En vérité, cet homme était aussi avec lui, car c'est un Galiléen. » Et Pierre dit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Et aussitôt, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur se retourna, et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, comment il lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et Pierre sortit et pleura amèrement. Maintenant, résumons ce qui s'est passé. Christ a prophétisé que Pierre le renierait trois fois. C'est ce que nous lisons. Ils ont eu un échange. Pierre ne l'a pas cru. J'irai en prison avec toi. Je mourrai avant que cela n'arrive. Puis nous voyons que Pierre a renié Christ trois fois, tout comme Christ avait prophétisé que cela arriverait. C'est un résumé de ce que nous venons de lire. Vous l'avez tous suivi. Tout a un sens. Tout est clair. Ce sont les faits. C'est ce qui s'est passé. Mes frères, en posant des questions, parce que c'est, quand j'ai parlé de ce qui nous empêche de faire une analyse plus profonde. Qu'est-ce qui fait que nous ne le faisons pas? Nous ne posons pas les questions. Nous ne posons pas assez de questions. Mais quand nous le faisons, nous en tirons tellement plus. Pourquoi Pierre a-t-il renié Christ trois fois? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas? On lui a dit qu'il allait le faire et qu'il ne le ferait pas, mais il l'a fait quand même. Quand Pierre a-t-il renié Christ? À quel moment de la vie de Pierre en tant que chrétien, nous pouvons l'appeler ainsi, à quel moment de sa vie a-t-il renié Christ? Eh bien, vous remarquez que Christ a poursuivi en parlant de sa conversion éventuelle. Ah, donc nous voyons que lorsqu'il l'a renié, il l'a renié avant d'avoir le Saint-Esprit. Il serait bon d'y réfléchir et de le noter. Plus précisément, à cette question, pourquoi Christ a-t-il dit que lorsqu'il serait converti, il fortifierait les frères? Il a donc dit qu'il le renierait, mais il a ajouté, « Quand tu seras converti, tu fortifieras les frères. » Eh bien, que voulait-il dire? Nous comprenons que c'est le Saint-Esprit. Quand nous cherchons les réponses, c'est le Saint-Esprit, et par l'Esprit de Dieu, il fortifiera les frères. Pourquoi Pierre pensait-il qu'il donnerait sa vie pour Christ? Il était sincère. Nous n'avons aucune raison de croire qu'il n'était pas sincère. Pourquoi pensait-il cela? Qu'est-ce qui lui a fait penser cela? Il y a une réponse à cela. Était-ce de la bravade humaine? Peut-être pensait-il vraiment qu'il n'allait pas le faire, mais pourquoi aurait-il pensé qu'il le ferait, même si Dieu lui avait dit qu'il allait le faire? Comment Christ savait-il à l'avance que Pierre allait le renier trois fois, au point de savoir qu'un coq allait chanter quand il le ferait? Comment Dieu le savait-il? C'est comme s'il pouvait prédire l'avenir. Comment savait-il, et même jusqu'au, avec des détails? A-t-il fait chanter le coq? A-t-il fait en sorte que Pierre renie? Comment cela fonctionne-t-il? Pourquoi Christ a-t-il permis à Pierre de continuer à jouer son rôle en sachant qu'il allait le trahir? Christ savait manifestement que Pierre allait le renier trois fois. Pourquoi l'aurait-il laissé continuer dans son rôle en sachant qu'il allait faire cela? Pourquoi Dieu ferait-il cela? Pourquoi a-t-il non seulement permis à Pierre de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il le renie, mais a ensuite fait de lui le principal apôtre? Je ne sais pas si j'aurais fait cela, humainement. Pourquoi Christ a-t-il fait cela? Pourquoi Dieu l'aurait-il fait? Voici quelques-unes des réponses aux questions que je viens de poser. Pierre a renié Christ avant d'avoir le Saint-Esprit. Bien, alors le Saint-Esprit vous donne la force de vous tenir debout, d'être prêt à mourir pour Christ, d'aller en prison comme il l'a fait plus tard. Nous avons tous lu ces récits. Et il a fini par mourir, par être tué. La force humaine de Pierre a fini par l'abandonner. Il avait de la bravade. C'était un homme dur. C'était un homme d'opinion, mais à la fin, il a plié sous la pression. Frères et sœurs, que pouvons-nous apprendre de cela? De notre propre humanité, que pouvons-nous apprendre de cela? Beaucoup. Comment pouvons-nous savoir, et c'est une réponse à la question, nous pouvons savoir à l'avance que nous allons pécher et le faire quand même. Nous pouvons savoir, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas parfaits, et nous pouvons juste connaître nos faiblesses et nous allons tout essayer, et nous le faisons quand même. Pierre savait ce qui allait se passer, mais il était dans le déni et il l'a fait quand même. Que pouvons-nous apprendre de cela? Nous apprenons que Dieu a le pouvoir de connaître l'avenir avec précision. C'est la prophétie. Dieu a la capacité de le faire. Nous voyons aussi que Dieu nous pardonne. Pierre l'a renié, et nous lisons plus loin que si vous reniez Christ, cela pourrait être la fin de la ligne pour vous. Il n'y a pas de vie éternelle. Mais Dieu peut et veut pardonner. Il nous montre que nous ne devons pas nous attarder sur les erreurs passées que nous commettons. Pierre a commis une grave erreur, mais s'y est-il attardé? Non. Pensez au jour de la Pentecôte. Il s'est levé et a prêché. Il ne s'est pas attardé sur son erreur. Frères et sœurs, nous pouvons apprendre de cela? Nous pouvons tous faire une terrible erreur, faire de terribles erreurs, frères, et continuer à faire des choses merveilleuses et à faire de grandes choses. Tout cela vient du fait de prendre une série de versets, au lieu de simplement les lire, de poser des questions sur ces versets et d'y répondre. De là, on prend ces questions et ces réponses, puis on en tire des conclusions, on les applique à notre vie. C'est cela l'analyse biblique. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Cela demande du travail. Cela demande des efforts, mais ce n'est pas difficile. Rappelez-vous, un analyste décompose quelque chose de complexe en parties plus petites, et en tire des conclusions. C'est tout ce que nous avons fait pendant tout ce temps. C'est tout ce que nous faisons. Encore quelques erreurs ici. Ne restez que dans le texte que vous analysez. C'est un autre obstacle à l'analyse biblique, restez uniquement dans le texte que vous analysez. Ésaïe 28. Ésaïe 28, verset 9. Ésaïe 28, verset 9, à qui enseignera-t-il la connaissance et à qui fera-t-il comprendre la doctrine? C'est Dieu qui parle de son peuple. Ceux qui sont sevrés du lait, et tirés des mamelles. Car il faut que précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, ici un peu, et là un peu. Je lis cela, frères, parce que nous devons nous rappeler, que si nous ne restons que dans le domaine, le récit que nous lisons, si nous ne restons que là, cela peut entraver notre capacité à faire une analyse profonde. Parce qu'une grande partie de ces informations, une grande partie des réponses aux questions que nous avons posées ne se trouve pas souvent là, dans cette série de versets. C'est un peu ici, un peu là, ligne par ligne, ligne par ligne. Nous devons mettre tout cela ensemble. Nous devons être prêts à sortir du texte que nous étudions afin d'obtenir les informations dont nous avons besoin. Si nous ne le faisons pas, pour quelque raison que ce soit, alors il nous sera extrêmement difficile, voire impossible, d'étudier la Bible en profondeur, de faire une analyse approfondie. Il n'y a tout simplement pas assez d'informations sur lesquelles travailler. Il faut qu'il y ait quelque chose sur quoi travailler. Soyez prêt à aller au-delà des versets que vous étudiez, peut-être même à des sources extra-bibliques, des choses en dehors de la Bible. Vous devez vous assurer qu'elles sont fiables, et les prendre avec un grain de sel, mais elles peuvent souvent être des moyens de répondre aux questions que nous avons posées. Le dernier obstacle est de ne pas prendre de notes pendant la lecture. Nous en avons parlé un peu, mais je veux y consacrer un peu de temps. Deutéronome 17. Deutéronome 17. Ne pas prendre de notes en lisant ou en étudiant, un gros obstacle à l'étude profonde de la Bible, à l'analyse profonde, à l'analyse biblique. Deutéronome 17, verset 18. Deutéronome 17, verset 18. Lorsqu'il sera assis sur le trône de son royaume, il s'agit d'un roi, il lui écrira une copie de cette loi dans un livre qui sera devant les prêtres des Lévites. Il la gardera avec lui et la lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et de ses statuts. Il y a une puissance dans le fait d'écrire les choses que nous étudions et d'être capable de revenir en arrière et de les lire tous les jours de notre vie, de capturer ses pensées, ses inspirations qui viennent souvent de Dieu, de son esprit. Lorsque nous les mettons par écrit et les capturons, nous pouvons les utiliser. Si nous ne le faisons pas, frères, il est pratiquement impossible de faire une analyse approfondie parce que nous ne faisons que nous souvenir, nous ne faisons que lire, nous espérons saisir les détails. C'est trop difficile. Vous pouvez vous demander comment écrire des choses pendant que vous lisez. C'est une source de distraction. Tout d'abord, ralentissez. Ralentissez. Mais au fur et à mesure que ces pensées vous viennent, vous pouvez les écrire sur le moment, ou vous pouvez les résumer plus tard après avoir lu. L'essentiel est de les capturer à votre manière, dans votre propre style, afin de pouvoir les utiliser plus tard. Notez les questions qui vous viennent à l'esprit, notez les réponses que vous trouvez, notez les conclusions que vous tirez. C'est de l'or. C'est de l'or que vous pourriez utiliser, comme il est dit ici, pour le reste de votre vie, afin de craindre le Seigneur et de garder toutes les lois et tous les statuts, et plus important encore, de les faire, de leur obéir. Frères et sœurs, nous pouvons appliquer cette analyse biblique profonde à toutes sortes de choses dans la Bible. Nous savons que c'est un livre d'histoire, un livre de prophétie, un livre de vie chrétienne. Nous l'avons fait de plusieurs manières ici. Nous avons parlé un peu de la prophétie. Nous avons parlé un peu de la vie chrétienne. Nous avons même parlé un peu d'histoire. Nous pouvons prendre cette analyse profonde de la Bible et l'appliquer à toutes sortes de choses dans la Bible. Il n'y a aucune raison pour que notre étude de la Bible soit ennuyeuse. Aucune raison pour qu'elle soit ennuyeuse. Elle doit être riche, elle doit être passionnante. Excitante. Vous ne pouvez pas attendre, je ne peux pas attendre, pour y retourner, pour creuser et poser des questions. Pour conclure, frères, qu'est-ce que l'analyse ? L'analyse est la collecte, l'interprétation et l'utilisation de données complexes pour développer des étapes exploitables qui amélioreront les processus et optimiseront les résultats. Vous l'avez écrit plus tôt. En d'autres termes, décomposer quelque chose de complexe en parties plus petites, poser des questions, y répondre, puis tirer des conclusions. Frères et sœurs, c'est super facile. C'est facile. Vous pouvez vous améliorer, mais c'est facile. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Les étapes consistent à choisir un sujet, à le lire et à le résumer, à le décomposer en petites parties, à méditer et à poser des questions à ce sujet, à répondre aux questions, à tirer des conclusions. Vous pouvez revenir en arrière et écouter tout cela et prendre des notes, remplissez vos notes. Faites attention à ne pas chercher Dieu, à lire trop vite, à ne pas poser des questions, à ne rester que dans les textes que vous lisez et à ne pas prendre de notes. Ce sont toutes des pierres d'achoppement qui peuvent rendre la tâche beaucoup, beaucoup plus difficile. Je vous ai donc demandé si j'avais tenu ma promesse du début du message. Toutes ces choses que j'ai dites, si vous les écoutez, cela va changer votre étude de la Bible. Ai-je tenu ma promesse? Je pense que oui. J'en suis sûr. J'en suis convaincu. Frères et sœurs, devenez un analyste biblique. Si vous le faites, vous porterez votre étude de la Bible non seulement à un autre niveau, mais à une autre dimension.